sujet très concernant quand on a 25 ou 30 ans, dans quoi on peut investir dans le contexte actuel. Alors vous allez tout nous dire hein, avec une base de départ de 500 euros, c'est bien cela?
C'est ça, c'est un peu le chiffre qu'on constate en fait d'après les remontées des internautes. Alors c'est vrai que c'est pas 200 ou 300 euros, hein, ça commence à être une somme à peu près significative, mais c'est le chiffre qu'on a choisi aujourd'hui. Ça nous semble le couvrir une panoplie de profils relativement variés.
Alors déjà, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on va faire un petit topo de ces jeunes investisseurs. Alors en général, entre 25 et 30 ans, on démarre dans la vie active. On peut éventuellement effectivement se permettre de placer 500 euros éventuellement de côté. Sauf que bon, c'est déjà une génération d'investisseurs qui démarre, qui n'a pas forcément le patrimoine qu'ont les quadragénaires, les quinquagénaires. Et puis aussi, il faut prendre aussi en compte que cette génération d'investisseurs, elle peut se permettre de prendre peut-être un petit peu plus de risques. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est une génération d'investisseurs qui est parfois peut-être un petit peu plus exigeante que ses aînés. Alors, elle veut performer, mais elle veut comprendre pourquoi elle veut donner aussi du sens à ses placements. Donc voilà pour le profil. Alors si vous avez entre 25 et 30 ans, ce BFM Patrimoine, le live est fait pour vous. Et on se tourne tout de suite du côté de notre expert du jour, donc Christian Fontaine. Je le rappelle, vous êtes directeur de la rédaction délégué du Revenu. J'ai la possibilité, alors je n'ai plus 25 ans, mais j'ai la possibilité d'économiser tous les mois 500 euros. Qu'est-ce que je fais concrètement, Christian?
Alors, d'abord, ce qui est peut-être important de rappeler en entrée, c'est qu'on a souvent tendance à considérer que l'argent, l'épargne, les économies, etc., le patrimoine, c'est une problématique de quinquagénaire, de quadragénaire, mais c'est faux. En fait, il y a des jeunes aussi qui s'intéressent à leur épargne et l'immobilier intéresse particulièrement les jeunes. Beaucoup de jeunes souhaitent devenir propriétaires. Alors, je dis, si vous le permettez, en fait, on va considérer que déjà ce jeune, il a déjà mis de côté un peu l'équivalent de 2 ou 3 mois de revenus pour faire face aux coups durs ou pour se faire plaisir, par exemple, pendant les vacances. Donc là, la question qui se pose, c'est effectivement, qu'est-ce que je fais de 500 euros par mois dans un univers, dans une ambiance qui a considérablement changé, puisque en fait, vous le rappelez tout à l'heure, mais les hors antennes, l'épargne réglementée donc rapporte davantage. Donc alors depuis le 1er janvier pour le PEL et puis ça va être depuis le 1er février pour le livret A et le DDS. On voit que l'assurance vie en euros, qui est vraiment un produit un peu fétiche, donc alors, ça pèse 1300 milliards d'euros, c'est l'un des placements financiers préférés des Français, ben, les rendements baissaient depuis 20 ans. Maintenant, ça y est, pour la première année, ils commencent à progresser. Rebond des marchés financiers. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'offre des placements. Et donc, c'est pour ça que on va s'adresser particulièrement aux 25-30 ans, mais on s'adresse en fin de compte à tout le monde. C'est comment un peu bien placer son argent dans ce nouveau contexte. Alors, pour revenir à votre question, 500 euros, ouais, c'est très concret, très pratique. 300 euros sur un PEL, puis après ça, on va revenir, on va détailler. 180 euros sur un PEA et 20 euros sur un PE. Alors, vous me dites, mais on s'adresse aux jeunes. Exit, vous ne parlez pas de placement numérique, vous ne parlez pas d'NFT, vous ne parlez pas de
Bitcoin. Vous avez pas osé,
mais il faut oser. Entre nous, il faut oser. Bon, pas de placement numérique. Vous ne parlez pas non plus de financement participatif, de crowdfunding. En gros, vous sortez des vieux nanars, donc là, pour des quadras, des quinquagénaires, des sexagénaires, ce n'est pas très sexy. Alors, il faut savoir que l'argent, on ne parle pas de cacahuètes ici. Hein. On parle d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'épargne, on parle d'économie. C'est-à-dire en fait la partie de vos revenus, de votre salaire que vous décidez de mettre de côté. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Hein, vous le savez bien, Julie, il est assez difficile d'obtenir des augmentations de salaire pour le jour où on les obtient, ben, de ne pas faire n'importe quoi avec son argent. Bon. Donc, au revenu, c'est un journal, on conseille de plus vieux, je dirais, journal patrimonial. On était lancé en 68 pour la petite histoire. Donc, on a un historique, on a des conseils de bon sens. Et c'est vrai que lorsqu'on débute en épargne, eh bien, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate en pratique, c'est qu'il ne faut pas hésiter à rester un peu classique. Voilà. Donc, d'où pourquoi exit les placements numériques. Exit, alors, ça ne veut pas dire qu'au sein de ces enveloppes fiscales, PEL, PEA, notamment PE, on va en parler un peu plus en détail, notamment le PEA, on peut très bien privilégier les investissements verts, pourquoi pas investir un peu dans la techno et donc indirectement dans le Bitcoin, etc. Pourquoi pas. Mais c'est ce que le revenu vous propose, 500 euros d'épargne, 300 euros sur le PEL, 180 euros sur le PEA, 20 euros sur le PE.
Donc ça, c'est ce que vous préconisez, mais est-ce que vous, vous constatez que quand même, donc ça c'est voilà, finalement, l'immobilier, les livrets d'épargne, l'assurance vie, est-ce que vous constatez qu'il y a quand même une petite, des petites hésitations avec voilà, tout cet univers numérique ou vraiment les placements tangibles, l'immobilier ou les actions, les supports, ça reste vraiment voilà, des placements sur lesquels les jeunes s'orientent.
Alors, il y a toujours des hésitations parce que les placements, c'est pas les voitures, hein, c'est pas aussi sexy. Donc, il y a déjà beaucoup de jeunes qui s'intéressent pas à cette matière et c'est bien dommage. Bon, c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup à gagner ou à s'y intéresser un minimum et beaucoup à perdre à ne pas s'y intéresser. Bon. Ça, c'est le... Vraiment, s'il y avait un conseil à donner, c'est intéressez-vous à votre épargne, à vos économies. Tout le monde compare le prix des chaussures, même le prix des produits alimentaires, a fortiori, donc alors de biens d'équipement. Beaucoup de gens souscrivent des placements en répondant à l'offre donc alors, qui est faite par le banquier et sans même comparer donc alors, d'un établissement à l'autre. C'est dramatique, dramatique. Il faut savoir que le coût... Alors là, on parle un peu de la banque au quotidien, mais... Le coût de détention d'un compte courant, donc c'est environ 200 euros par an. Mais vous avez la possibilité, si vous gérez votre compte courant via un établissement 100% en ligne, à faire baisser cette somme à 0 euros. Il faut bien savoir qu'une épargne peu ou prou mal gérée peut coûter en frais 2 ou 3% par an. Ce n'est pas négligeable, 2 ou 3% par an. Donc, si, premier conseil à donner aux jeunes, c'est s'intéresser à cette matière. Bon. Et les jeunes... Alors, s'intéresse notamment à cette matière via l'immobilier. L'immobilier, c'est très concret, c'est le logement. Hein. Donc, ça, c'est du
concret. Donc, ça reste dès 25 ans, ils se disent, voilà, il faut que je devienne propriétaire ou...
Eh bien, on pourrait penser dans une économie de l'usage. On loue de plus en plus tout. On loue des voitures, on loue bien sûr des vêtements. Donc, alors, on loue des gros équipements, etc. On pourrait penser que... Ça serait pareil en matière d'immobilier. Ben non, en fait, ce qu'on constate, c'est que les jeunes aussi veulent faire comme leurs parents, comme leurs grands-parents, acheter leur logement, parce que ça sécurise l'avenir.
Ouais. Donc, ils ont vraiment, voilà, donc, ils sont pas uniquement attachés à tout ce qui peut être nouveau et crypto-monnaie, machin. Ils ont vraiment cette prise de conscience de ces placements qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui s'inscrivent dans la durée, et l'immobilier en fait partie.
L'immobilier a fait ses preuves dans la durée. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même l'anxiété autour de l'inflation. Donc, l'idée, c'est de se positionner sur des placements qui, peu ou prou, vont garantir votre pouvoir d'achat sur le long terme. Ben, c'est le cas de l'immobilier qui, peu ou prou, progresse comme l'inflation plus
encore faut-il alors, pouvoir en ce moment avec les histoires de taux d'usure, mais bon, ça passera à un moment donné.
Ça passera. De toute façon, la Banque de France a annoncé a priori une révision du taux d'usure plus rapide, tous les mois au lieu de tous les trimestres. Alors, il faut revenir quand même à cette répartition initiale. 300 euros en PEL, 180 euros en PEA et 20 euros en PE. Vous allez me dire, on est très loin de l'immobilier. Ben non, parce que les 300 euros sur le PEL, PEL, c'est le plan d'épargne logement. Donc, ça a été un outil mis en place il y a plus de 50 ans par le gouvernement, par le législateur, pour aider les particuliers à investir dans la pierre, justement. Donc, c'est un placement quelque part qui sent bon la naphtaline, hein, plus de 50 ans, mais qui reste d'actualité. Et je vais vous prouver pourquoi ouvrir un PEL aujourd'hui. D'abord parce que le PEL, il y a une phase d'épargne, il y a une phase ensuite d'emprunt. La phase d'épargne, vous allez profiter aujourd'hui votre épargne va être rémunérée à 2%. 2%, c'est un nouveau taux. Depuis le 1er janvier, avant, c'était 1%. Déjà, vous profitez d'un taux deux fois plus élevé qu'auparavant. Ensuite, surtout, au bout de 4 ans, vous allez avoir la possibilité d'emprunter à 3,2%. Et ce taux de 3,2%, il est figé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous empruntez sur 20 ans autour de 2,7-2,8. Donc ce taux de 3,2, il n'est pas compétitif. Mais si l'OAT... sur lequel, qui sert de référence pour la fixation des prêts à l'habitat, continue à augmenter. Aujourd'hui, on est à 2,7-2,8. Continue à augmenter, ce taux de 3,2 pourrait être intéressant. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ouvrir un PEL, c'est la certitude de pouvoir emprunter à 3,2% dans 4 ans et d'emprunter pour acheter votre logement. Ensuite, le PEL vous oblige à épargner régulièrement. Alors, de mémoire, c'est 540 euros par an. Bon. Et donc, vous allez... Il est plutôt conseillé de mettre en place des prélèvements automatiques sur le compte courant à raison de 45 euros par mois. Vous allez montrer à votre banquier que vous avez un peu une mentalité d'écureuil. Et les banquiers, ils aiment ça, les écureuils.
Oui,
parce
ça,
que le jour où,
le
jour où il va falloir emprunter, ils vont regarder le fonctionnement de votre compte. Et s'ils vont voir que vous êtes capable de mettre régulièrement de l'argent de côté, mais eux, ça va les rassurer.
Bon. Donc vous avez dit pour le PEL, c'est 540 euros minimum par an.
Donc ça fait de mémoire, 45 euros par, par mois.
Oui, une somme, ce qui est a priori jouable quand on démarre dans la vie active.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est autant de bonnes raisons d'épargner sur un PEL. La dernière, c'est bien sûr que vous allez vous constituer un apport. Tout à l'heure, vous parliez du problème du taux d'usure, que les banques donc, ont du mal à prêter. Voilà, c'est ponctuel, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, voire quasiment impossible, d'emprunter sans apport. Donc le PEL vous permet aussi de vous constituer un apport pour l'achat de votre logement d'ici 4 ou 5 ans. Donc c'est un peu la base de cette épargne logement en vue d'acquérir votre logement.
Très bien. Alors ça, c'est pour le PEL. Donc, on peut économiser 500 euros par mois. Est-ce qu'on se penche aussi du côté du PEA ?
Ah oui, bien sûr, parce que là, ça ne vous a pas échappé que le PEL, le rendement, même s'il a doublé 2%, pas très sexy quand même. Il y a mieux. Hein.
On peut espérer un peu mieux, un peu plus risqué, mais oui,
alors,
c'est vrai que...
On peut espérer mieux. Alors, donc, pourquoi 180 euros sur le PEA ? Le PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est le pour deux raisons. En fait, le PEA, c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse. Et ce qui vous permet de ne payer que 17,2% de prélèvements sociaux sur vos gains contre 30% sur un compte titre ordinaire. En fait, on est en France. Ça ne vous a pas échappé.
Hein. Ah, ça j'avais suivi.
C'est génial. Donc, on est en France. Ça signifie qu'il faut toujours aussi un petit peu penser fiscalité, parce que investir dans un placement à potentiel, du bitcoin, du crowdfunding, je sais que vous en rêvez, donc je prononce les mots clés.
Non, mais moi j'ai plus 20 ans.
Si vous investissez là-dedans et que vous ne vous interrogez pas sur la fiscalité à la sortie, ben, vous pouvez éventuellement gagner beaucoup d'argent, mais si c'est pour donner l'essentiel de vos gains à l'administration fiscale, ce n'est pas très intéressant. Donc, oui, au plan d'épargne en action, c'est-à-dire l'investissement en bourse, parce que la bourse, c'est le placement qui a le plus de potentiel. Il suffit de voir le rebond des marchés depuis le début de l'année autour de 8-9%, pour s'en persuader. Mais encore faut-il investir en bourse sans passer par la case impôt. Et ça, pour ça, le PEA, le plan d'épargne action, c'est top. 17,2% de prélèvements sociaux sur vos gains, dividendes et plus-values, contre 30% pour un compte titre ordinaire. Et alors surtout, et ça on ne le dit pas assez, on a parlé tout à l'heure avec Cédric sur votre antenne, vous ne passez... Quand vous encaissez des dividendes ou une plus-value sur un compte titre ordinaire, vous passez par la case impôt. Sur le PEA, vous ne passez par la case impôt que lorsque vous effectuez des retraits de votre PEA. Donc ça signifie que, oui, vous devez de l'argent aux organismes sociaux, mais tant que vous n'avez pas fait de retrait, cet argent reste placé, il fait des petits qui tombent dans votre besace. Ça, c'est très important. Vous choisissez le moment, le jour presque, où vous allez payer vos impôts. Avec un compte titre ordinaire, vous ne choisissez rien. Avec un contrat d'assurance vie, avec un plan d'épargne d'entreprise, avec un PEA, c'est le jour où vous avez besoin de votre argent. Et donc, c'est une vraie différence, hein, puisque quand vous encaissez 1 euro de dividende sur un PEA, eh ben, vous l'encaissez et vous pouvez réinvestir 1 euro. Tandis que lorsque vous encaissez 1 euro de dividende sur un compte titre ordinaire, je prends le cas classique, vous allez payer 0,3 euros d'impôt. Donc, vous ne pourrez replacer que 0,7 euros. Et donc, du coup, ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts, c'est la septième merveille du monde d'après Einstein, joue moins à fond que sur un PEA. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille à vos auditeurs qui ont 25 ans ou même qui sont un peu plus âgés et qui ont la possibilité d'épargner 500 euros par mois, de placer 180 euros sur un PEA.
Et on le garde tout le temps, ce PEA ?
On le garde, oui, peu ou prou. Alors, l'idéal, ce serait de vitam aeternam. Après ça, vous pouvez...
Parce qu'on connaît la performance des actions sur 10, 20, 30, 40 ans. On a bien compris que, voilà, après l'immobilier, ou bon, bref, sur une autre approche, en tout cas, voilà, ce qui était intéressant, c'était de l'inscrire dans la durée. Donc, bon, l'idée, c'est quand même de commencer le plus tôt possible.
Alors, vous avez raison, ce n'est pas un placement pour 1, 2 ou 3 ans. C'est un placement à minimum pour 5 ans, voire pour 10 ans. Après ça... Si on revient un petit peu à la logique de départ, qui est en fait d'acquérir un bien immobilier. Quand on est jeune, si on a 25-30 ans, on se place dans l'optique d'acquérir un bien immobilier au bout de 5 ans.
Ouais.
Bon. Donc au bout de 5 ans, il y aura deux possibilités. Soit de la bourse a bien progressé et vous retirez l'essentiel de votre argent du PEA pour doper votre apport et pouvoir éventuellement emprunter plus, en tout cas acheter plus grand et plus confortable. Soit la bourse a baissé, mais ce n'est pas grave, vous conservez votre PEA et puis vous en profiterez quand les marchés auront augmenté. Donc voilà, ce n'est pas un placement dans l'idéal pour profiter de la capitalisation des intérêts et de la croissance, la progression de la bourse à long terme. Vous conservez au moins 10 ans votre plan d'épargne en action.
Ouais. Merci. Donc ça, c'est pour le PEA. Et alors, Cédric disait tout à l'heure qu'il calculait très mal, mais au contraire, il calcule très bien. Selon ses savants calculs, il reste donc 20 euros, donc sur les 500 euros que vous pouvez économiser chaque mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces 20 euros?
Alors, donc, effectivement, vous avez bien résumé, 300 euros pour PEL, 180 euros pour PEA, il reste 20 euros pour PE. Alors, ça, c'est l'argent que vous pouvez investir dans votre entreprise. Vous savez, il y a plus de 10 millions de salariés en France qui ont accès à ce qu'on appelle l'épargne salariale.
Eh oui.
Et donc, en fait, c'est de l'épargne qui est alimentée automatiquement par l'intéressement et la participation au résultat de l'entreprise. Mais vous pouvez aussi effectuer, et c'est moins connu, vous pouvez aussi effectuer des versements volontaires dans la limite de 25% du salaire annuel brut. Et ces versements volontaires, sur ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise, sont souvent abondés par l'employeur à raison d'un multiple de 3. Donc, versez 1 euro et l'employeur verse 3 euros. Donc, ça, c'est 3 euros qui tombent dans votre besace. Et donc, c'est ça l'intérêt, c'est de, si vous placez 20 euros, alors pas par mois dans votre PE, hein, c'est 20 euros fois 12, donc ça va vous faire 240 euros. Et 240 euros, et votre employeur vous versera 3 fois 240 euros. Et donc, ça fait 720 euros. 720 euros plus vos 240 euros, ben, ça va faire pas loin de 1000 euros par an. 1000 euros par an pendant 5 ans, plus les intérêts pendant 10 ans. Ça va vous faire une petite cagnotte de 5000 à 10 000 euros sans effort. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de conserver 20 euros sur vos 500 euros d'épargne mensuelle pour l'investir dans ce qu'on appelle l'épargne salariale. Donc, c'est intéressant parce que vous profitez de l'abondement et puisque c'est intéressant, c'est une enveloppe à fiscalité privilégiée. Et donc, c'est un peu comme le PEA là, à ce niveau-là. Donc, vous ne payez que les prélèvements sociaux sur vos gains. Donc, là aussi, vous allez faire des petits et vous payez que 17,2% de prélèvements sociaux. Quand vous retirez votre argent, là aussi, alors il y a une durée d'immobilisation des fonds, mais au bout de 5 ans, donc dans 5 ans, soit tout a progressé et vous allez récupérer vos fonds pour acheter votre logement. Hein. C'est un des 4 déblocages anticipés, c'est l'acquisition de la résidence principale. Soit éventuellement la bourse a baissé, dans ces cas-là, vous pouvez rester investi.
Alors, vous savez, hein, c'est une génération très exigeante. Est-ce que dans le cadre d'un PE, on peut savoir un petit peu comment est structurée l'épargne, dans quoi ça va, ou en général, c'est la boîte, l'entreprise qui choisit et ça va dans des actions internationales. Est-ce qu'on a un petit peu le choix, vous savez, ou pas?
Alors, on a... vous avez la possibilité de gérer cette épargne exactement comme vous pouvez gérer vos liquidités en les transférant vers un livret A. Et puis, lorsque vous avez besoin d'argent, vous transférez du livret A vers votre compte courant.
Il faut quand même faire quelques arbitrages alors.
Oui, vous passez par une plateforme informatique moderne qui vous permet d'effectuer des arbitrages. Généralement, vous avez accès, alors un PE, je dirais, de qualité moyenne va vous donner accès à 5-6 fonds. Un PE de bonne qualité, vous va donner accès à une trentaine de fonds. Il y a des fonds. Investi de façon solidaire. Il y a des fonds investissent de façon responsable. Par contre, vous investissez...
Il y a des prises de risques différentes aussi parfois.
Mais vous investissez dans des fonds communs de placement d'entreprise qui sont des outils assez traditionnels. Vous ne pouvez pas choisir de financer le promoteur du coin. Vous ne pouvez pas choisir d'investir dans tel NFT. Vous ne pouvez pas choisir d'investir dans de l'Ether ou du Bitcoin. Non, ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus décider de financer votre propre entreprise ou l'entreprise d'un proche, etc., ou une entreprise de votre région. Vous investissez forcément, soit ça peut être dans les actions de votre propre entreprise, ça c'est quand même du concret, vous savez, voilà.
C'est corporate.
C'est corporate, mais sur le plan patrimonial, vous avez une vision corporate, c'est bien. Une vision patrimoniale impose de dire que vous concentrez les risques. C'est-à-dire votre épargne. Vous mettez tous vos œufs dans le même panier, ce qui revient, vous dépendez beaucoup de votre employeur. Si l'entreprise va bien, eh ben, vous en profiterez en tant que salarié, vous en profiterez en tant qu'actionnaire. Si la conjoncture se retourne, ça peut être plus difficile. Donc, attention à ce point-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les entreprises, dans les actions de son entreprise, mais attention à cette diversification des risques. Et donc, vous investissez quand même dans des produits collectifs qui sont gérés par des établissements financiers. Vous ne pouvez pas directement choisir les entreprises dans lesquelles vous allez investir, sauf si c'est votre propre entreprise.
Oui, mais on a quand même voilà, les zones géographiques, en fonction de notre appétence au risque, il y a quand même voilà, 2-3 points pour nous éclairer.
Des produits monétaires, des produits actions, voilà. Des produits obligations. Donc,
exactement. Voilà,
tout à fait.
Merci beaucoup, Christian, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Donc, je le rappelle, hein, Christian Fontaine, le directeur de la rédaction délégué du Revenu. On espère que ce premier BFM Live vous a éclairé. Si vous avez 25-30 ans et que vous souhaitez donc placer vos économies, 500 euros par mois, bah maintenant, voilà, vous savez quoi faire. L'immobilier, le PEA, le PEL. Voilà, donc quelques éclairages pour vous aiguiller. Et puis, on espère vous retrouver bientôt.
À bientôt.